Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux Jeux Olympiques. Un pays, une seule médaille d'or, la Syrie. Et la victoire en heptathlon aux Jeux Olympiques de 1996 de Ghada Choua. Princesse de Syrie, elle était appelée à régner sur l'heptathlon mondial. Ghada Choua, la petite paysanne de la plaine du Gard, n'en fut pourtant qu'une reine éphémère. « J'espère que ma victoire fera avancer la cause du sport dans le monde arabe », voulait-elle croire le soir de son titre olympique à Atlanta en 1996. Une reine que les amateurs de fables imaginèrent un peu vite capable d'émanciper la femme sportive dans les pays musulmans. Mais le conte n'a pas connu une fin heureuse. La princesse, destituée en Syrie, peu après son sacre olympique, est vite retombée dans l'oubli. 28 juillet 1996, au Centennial Olympic Stadium d'Atlanta, le départ du 800 mètres, dernière des 7 épreuves de l'heptathlon, va être donné. Depuis le lancer du javelot, un peu plus tôt, lors duquel Ghada Choua a pulvérisé son record personnel, l'or lui tend les bras. La Syrienne au physique longiligne, 1m80, détient la meilleure performance de l'année. Et l'Américaine, Jackie Joyner Kersee, double championne olympique en titre et grande favorite de l'heptathlon, a abandonné, blessée après la première épreuve, le 100 mètres haies. Ghada Choua, short et t-shirt noir et rouge, en est alors persuadée, la médaille d'or ne peut plus lui échapper. Encore un dernier effort à produire dans ce double tour de piste qui met au supplice les organismes éprouvés par 2 jours de compétition. Pour remporter le titre olympique, elle ne doit pas finir plus de 14 secondes derrière sa rivale au classement, la Biélorusse Natalia Sazanovic. Toute une nation retient son souffle quand l'heptathlète embrasse la croix qu'elle porte autour du cou, son petit rituel au départ de chaque épreuve. La Syrienne ne faillit pas dans ce 800 mètres et se paie même le luxe de finir devant la Biélorusse. Ghada Choua peut lever les bras. À 23 ans, la jeune femme à la longue chevelure brune, finement bouclée, vient d'offrir à la Syrie sa première médaille d'or dans l'histoire des Jeux Olympiques et la seule jusqu'à ce jour. Le pays a également obtenu une médaille d'argent en lutte à Los Angeles en 1984 et 2 médailles de bronze à Athènes en 2004 et Tokyo en 2021. À son retour en Syrie, la jeune femme, qui ne manque jamais une occasion de remercier son Excellence le Président Hafez el-Assad, est reçue comme une reine par plus de 100 000 damascènes, gonflés de fierté de tenir enfin là leur championne olympique. Une reine issue d'un milieu modeste. L'histoire est belle, elle commence le 10 septembre 1972 à Mouarda, une petite ville à 200 km au nord de Damas, dans une famille de paysans chrétiens de rite orthodoxe. La fillette passe les premières années de sa vie à courir après ses 4 frères et sœurs, puis participe à des compétitions de cross-country. Après un détour par le basketball, elle en sortira meilleure joueuse de l'équipe nationale, elle revient à ses premiers amours, la course à pied. Après tout, raconte la légende populaire, n'avait-elle pas, jeune fille, réussi à rattraper et capturer un lapin qui s'était échappé de la main d'un vieil homme? À 18 ans, Ghada Choua opte pour l'heptathlon et sa grande variété de disciplines. Blessée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, elle finit loin des honneurs, 25e, mais elle s'impose aux Jeux Asiatiques de 1994. Elle y gagne également les félicitations du président Hafez el-Assad, ainsi qu'une belle villa et une Peugeot 504 offerte par le président syrien pour la féliciter. La consécration internationale arrive l'année suivante à Göteborg, en Suède. En l'absence de l'américaine Jackie Joyner Kersee, Ghada Choua, entraînée par un ancien discobol soviétique, fait retenir l'hymne de Syrie pour la première fois dans l'histoire des mondiaux d'athlétisme. On rend compte que plus de 2 millions de Syriens étaient massés le long de la route menant de Damas à son village natal pour accompagner l'escorte officielle de la championne. En cette chaude soirée de fin de juillet 1996, le duel s'annonce épique entre les deux femmes dans le stade olympique d'Atlanta. D'un côté, la jeune et talentueuse Syrienne, porte-drapeau de son pays à la cérémonie d'ouverture. De l'autre, Jackie Jarnacarsi, athlète certes au crépuscule de sa carrière, mais portée à domicile par 85 000 spectateurs. Plus qu'une performance sportive, le titre olympique de Gadachoua est aussi le triomphe dans un pays musulman d'une femme chrétienne de surcroît. Gazala, la gazelle, surnom hérité de son enfance pour ses longues jambes, est fait même, en décembre 1996, les titres du Yedot Ha'aronot, le plus grand quotidien israélien, qui désigne l'athlète syrienne sportive de l'année, devant Marie-Jo Perec. Gadachoua semblait alors courir dans les pas de la Marocaine Nawal El-Moutawakel, championne de 400 mètres haies à Los Angeles en 1984, et de l'Algérienne Hassiba Boulmerka, sacrée sur 1500 mètres à Barcelone en 1992. Mais à la différence de ces deux icônes arabes de l'olympisme, la victoire de Gadachoua ne fut pas interprétée comme un acte de résistance au fondamentalisme religieux. Contrairement à ses deux illustres aînés, Gadachoua n'a pas connu de reconversion sous les ors des instances internationales olympiques. Blessée au dos après les Jeux d'Atlanta, elle part se faire soigner en Allemagne et disparaît des tartans pendant trois longues années avant de décrocher une médaille de bronze inespérée aux Mondiaux de Séville en 1999. La Cyril allait l'acclamer, à n'en pas douter, mais l'accueil fut glacial. Ils m'ont tous reproché de ne pas avoir gagné l'or, d'avoir passé du bon temps comme touriste en Allemagne, confie Gadachoua au quotidien saoudien Arabo News en août 2009. La jeune femme ne s'en relève pas, ses rêves de record du monde de l'heptathlon, 7291 points pour Jarnacarsi en 1988 à Séoul, s'envolent et sa carrière se termine dans l'indifférence, après son abandon sur blessure aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Idolâtrée, puis conspuée dans son propre pays, Gadachoua n'a en revanche jamais été lâchée par la famille Assad au pouvoir. Une loyauté sans faille, au point d'apparaître fin 2014 sur une photo aux côtés de soldats pro-régime, alors que la Syrie est déchirée depuis trois ans par la guerre civile. Un épisode controversé sur lequel l'athlète ne souhaite pas s'exprimer. Aujourd'hui, Gadachoua n'a pas donné suite. Elle tout juste sait donc qu'elle a travaillé depuis 2006 pour une entreprise allemande de cosmétiques ou qu'elle s'est essayée au métier de commentatrice sportive pendant les Jeux de Pékin en 2008. Notamment, ancienne reine de Syrie, Gadachoua, dont le nom signifie « rayon de lumière », préfère l'ombre, son nouveau royaume. La Syrie est un pays d'Asie de l'Ouest. Située sur la côte orientale de la mer Méditerranée, elle possède des frontières terrestres avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban et une frontière maritime avec Chypre. Sa capitale et sa plus grande ville est Damas, qui fut historiquement la capitale du califat Omeyyade de 661 à 744. La Syrie est un pays significatif dans l'histoire du christianisme. Paul de Tarse, le futur saint Paul, a été converti au christianisme sur la route de Damas et a établi une église d'abord à Antioche, en Syrie antique, aujourd'hui en Turquie. Damas a été fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est une des villes les plus anciennes du monde. Elle a été habitée sans interruption, comme Bénarès et Jéricho. Après l'arrivée des conquérants musulmans, Damas est devenue la capitale de l'Empire Omeyyade et a atteint un prestige et une puissance encore inégalée dans l'histoire syrienne. Cet empire s'étendait de l'Espagne à l'Asie centrale, 661 à 750 après Jésus-Christ. Après la chute des Omeyyades, un nouvel empire fut créé à Bagdad, l'Empire Abbaside. En 1260, Damas est devenue la capitale provinciale de l'empire des Mamelouks. En 1400, la ville fut détruite en grande partie par Tamerlan. Damas a été presque entièrement incendiée et les artisans damascènes furent enlevés pour travailler à Samarcande. Une fois reconstruite, la ville a servi de capitale jusqu'en 1516. En 1517, la ville et le pays tombent sous occupation ottomane. Les Ottomans régnèrent sur le pays pendant plus de 400 ans, jusqu'en 1918, excepté la brève période où l'Égyptien Ibrahim Pacha occupa le pays de 1832 à 1840. La Syrie se libéra de l'occupation ottomane après la révolution arabe. Les forces arabes entrèrent dans la capitale Damas en 1918. Un royaume arabe syrien indépendant fut alors créé. Faisal Ier, issu de la famille hachémite, frère d'Abdallah Ier, en fut le premier et dernier roi. En effet, l'indépendance du royaume cessa après l'occupation du pays par les forces françaises en 1920. Après la bataille de Khan Masailoun, en juillet 1920, la colonne du général Gouabé entra à Damas. Les Français imposèrent leur mandat dans le pays, ce qui entraîna l'exil de Faisal en Irak. La France et le Royaume-Uni, qui se disaient alliés des forces arabes de Faisal, s'étaient mis d'accord pour se partager le Proche-Orient. Après l'accord Sykes-Picot, les Français et les Britanniques se répartissent administrativement les territoires de l'Empire ottoman déchu, créant artificiellement des pays distincts. L'accord met fin à la Syrie historique, qui comprenait la Syrie actuelle, le Liban, la Jordanie, la Palestine. La période du mandat voit la montée du nationalisme et la révolte contre l'armée française. C'est en septembre 1920 qu'est créé l'État du Grand Liban, appuyé par les chrétiens maronites. La naissance du Liban est vécue comme un échec par les Syriens. Jusqu'au XXe siècle, le mot Liban désigne la chaîne de montagnes parallèle à la côte qui sépare une partie du littoral de la plaine de la Bekaa. Cela n'anéantit pas le nationalisme syrien et la France doit livrer d'importants combats en 1925-1927, bombardant Damas en 1925, environ 10 000 Syriens et 2500 Français y laissent la vie. En 1930 est constituée, pendant le mandat français, la République syrienne, régime qui perdure jusqu'en 1958, date de l'entrée en vigueur du pays, le traité d'union syro-égyptienne et de la disparition de la République par fusion avec l'Égypte en République arabe unie, et cela jusqu'en 1961. Après la défaite de la France en Europe lors de la campagne de France en juin 1940, ce sont les Britanniques et les forces françaises libres qui prennent le contrôle du pays. Campagne de Syrie en juin-juillet 1941, redonnant le pouvoir à la France libre. Les Syriens continuent à réclamer le départ des Français avec l'appui des Britanniques. De Gaulle engage un bras de fer avec Churchill et les Syriens qui se soldent par le bombardement de la Syrie par la France gaullienne. Après plus de 2000 morts, l'interposition de la Grande-Bretagne interrompt le conflit. L'indépendance de la Syrie s'ensuivra en 1946. La fin du mandat français est suivie d'une très grande instabilité en Syrie. Le 1er février 1958, l'Égypte et la Syrie s'unissent, créant la République arabe unie, ce qui entraîne de facto l'interdiction des partis politiques syriens. Mais l'Union cesse rapidement d'exister. Le général Haider al-Kousbari fait un coup d'État le 28 septembre 1961, la Syrie faisant sécession et rétablit la République arabe syrienne. Les 18 mois suivants seront marqués par une grande instabilité politique, avec divers coups ou tentatives de coup d'État. Le 8 mars 1963, un nouveau coup d'État a lieu, installant le Conseil national de commande révolutionnaire au pouvoir avec à sa tête Amin al-Hafez. Ce conseil est constitué d'un groupe de militaires et de civils, tous socialistes, qui ont assumé les fonctions exécutives et législatives. Le coup d'État est l'œuvre du parti Baas, et la majorité des membres de ce conseil étaient membres de ce parti. À quelques mois d'intervalle, le parti Baas procède également à un coup d'État en Irak. Le 13 novembre 1970, profitant de l'impasse due à l'implication de l'armée syrienne dans la crise en Jordanie entre le roi Hussein et l'OLP, le ministre de la Défense Hafez al-Assad procède à un coup d'État. Il devient, grâce à ses révolutions correctives, le nouveau Premier ministre et l'homme fort de la Syrie. Hafez al-Assad, chef de l'État de 1970 à sa mort en 2000, est confirmé dans ses fonctions de chef de l'État par 5 référendums successifs où il est chaque fois l'unique candidat. Il est, après le roi Hassan II du Maroc, le chef d'État arabe qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Cette longévité provient essentiellement du fait du verrouillage complet de la vie politique. Il était soutenu par les minorités religieuses, dont la minorité religieuse alaouite. Il est aussi soutenu par beaucoup de fermiers et par les Syriens vivant dans les milieux ruraux. L'expansion de la bureaucratie a créé une classe moyenne fidèle au gouvernement. Mais l'essentiel de sa puissance venait de l'armée syrienne et de son appareil de sécurité omniprésent. Un autre facteur de son maintien au pouvoir est le nationalisme. dont entre autres les conflits qu'il opposait et oppose la Syrie aux États-Unis, à Israël et à l'Irak de Saddam Hussein. Bachar el-Assad succède à son père le 17 juillet 2000, après une modification de la Constitution qui abaisse l'âge minimum pour la candidature à la présidentielle de 40 à 34 ans, âge de Bachar. Seul candidat, il est élu par référendum. Les Syriens évoquent alors une république-monarchie pour qualifier la république héréditaire. Début 2011, le printemps arabe atteint la Syrie. Des manifestations en faveur de la démocratie et pacifique ont lieu dans tout le pays contre le régime baasiste du président Bachar el-Assad. Ces manifestations sont réprimées brutalement par le régime et peu à peu, le mouvement de contestation se transforme en une rébellion armée. De nombreux belligérants participent au conflit. L'armée syrienne libre, nationaliste, est le premier mouvement à mener la rébellion. Mais à partir de 2013, elle est supplantée par des groupes islamistes sunnites. Les groupes rebelles sont soutenus principalement par la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. De son côté, le régime syrien se maintient grâce à l'aide de l'Iran et de la Russie. De son côté, la Russie intervient militairement en septembre 2015 et commence une campagne de frappe aérienne en soutien au régime. Venu d'Irak, l'État islamiste apparaît en Syrie en 2013. Initialement allié aux groupes rebelles syriens, il entre en conflit avec ces derniers à partir de janvier 2014. Dès septembre 2014, l'État islamiste est la cible d'une campagne de frappe aérienne effectuée par une coalition menée par les États-Unis. De leur côté, les Kurdes du Parti de l'Union démocratique et sa branche armée, les Unités de protection du peuple, liées au PKK, combattent pour l'autodétermination du Rojava. De mars 2011 à février 2016, le conflit a fait de 260 000 à 470 000 morts, d'après les estimations de diverses ONG de l'ONU. De nombreux massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis, principalement par le régime syrien et l'État islamiste. Le camp loyaliste est responsable de la majorité des victimes civiles de la guerre, souvent par le fait de bombardements aériens. Entre 100 000 et 200 000 personnes ont disparu dans les prisons du régime. Au moins 12 000 à 60 000 y ont été torturés à mort. Des armes chimiques ont également été employées. La moitié de la population syrienne a été déplacée pendant le conflit et entre 5 et 6 millions de Syriens ont fui le pays, soit le quart de la population. Fin novembre 2024, les rebelles du groupe Ayad Tahrir al-Sham lancent une offensive au nord-ouest de la Syrie, ce qui leur permet de prendre la ville d'Alep, la deuxième ville du pays. Le 7 et 8 décembre 2024, les rebelles islamistes prennent le contrôle de la capitale Damas, en particulier des médias et de l'aéroport, et le 8 décembre, le président Assad quitte de Damas un avion alors que les conditions de sécurité s'y détériorent rapidement, et il trouve asile en Russie. La Turquie, voisine de la Syrie, a appelé le premier jour les acteurs internationaux et régionaux à assurer une transition en douceur. Depuis la chute du régime Baas, les deux puissances régionales tentent d'étendre leur influence sur la Syrie désormais présidée par Ahmed al-Sharaa, chacune à leur manière. Ces deux puissances sont Israël, qui bombarde et multiplie les incursions de ses troupes dans le sud du territoire syrien, et la Turquie, déjà présente dans le nord du pays, en espérant signer un accord de défense et récupérer des bases militaires.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.